I watched sea beams glitter in the dark.
Maybe one of us saw too much. You're safer here than any place else.
Now relax. Close your eyes.
Just listen.
Bonjour et bienvenue dans Année Lumière, l'émission qui parle de cinéma une année à la fois. C'est comme d'habitude Thibaut Gomez-Léal qui vous parle et on se retrouve à nouveau pour discuter d'un millésime de cinéma avec un invité. Et ce mois-ci, mon invité est producteur et réalisateur, césarisé en 2010 pour le documentaire L'Enfer d'Henri Georges Clouzot. Il a été le présentateur des émissions télé Cellulo et Saturne Brombi, ancien directeur artistique du Festival du film d'animation d'Annecy. Il est aussi le fondateur de la société Lobster Film. Cet invité, c'est Serge Bromberg. Bonjour Serge.
Bonjour, et vous avez oublié une chose importante. Je présente toujours, et depuis 19 ans, un magazine qui s'appelle Retour de Flamme sur Ciné Plus Classique, qui tous les mois propose une heure et demie de films retrouvés, de films miraculeux. Enfin bref, une aventure qui existe depuis 1992 et qui trouve depuis 19 ans sa transformation audiovisuelle. Voilà.
Mais c'est vrai que vous avez tellement de casquettes, Serge, que...
J'ai de casquettes.
On pourrait prendre toute l'émission pour les citer. Alors, j'ai cité rapidement Lobster Film. Pouvez-vous nous parler de cette société, là, de l'expliquer aux auditeurs qui ne la connaissent pas?
Alors, en fait, c'est très très simple. À l'âge de 23 ans, je voulais faire tout sauf devenir chef de produit chez Schweppes ou Procter & Gamble. Et donc, étant amoureux de cinéma, j'ai décidé de monter une société de production de cinéma qui, évidemment, pendant des années, n'a rien produit puisque je ne connaissais personne dans le milieu et vous savez... C'est un milieu où il y a énormément de réseaux. Par contre, j'avais une particularité, c'est que j'adorais le cinéma patrimonial et que je collectionnais les films Super 8, 16 mm, etc. Donc j'ai commencé à en restaurer quelques-uns, à en proposer quelques-uns. Et en gros, on est un peu la voiture balai du cinéma. On recherche des films perdus, on les restaure et surtout, évidemment, on les fait revivre. Mmh. Notre credo, c'est que restaurer les films, c'est formidable, mais le plus important, c'est de restaurer les spectateurs. Et ça, c'est autrement plus difficile. Et quand vous pensez à toutes les émissions, mes activités, quelles qu'elles soient, les spectacles, la présentation d'émissions comme Cellulo où on présentait des dessins animés ou des choses comme ça, c'est toujours des fenêtres ouvertes sur des genres cinématographiques, sur des expériences, sur une sorte d'appétit que j'espère contagieux pour essayer de donner aux gens l'envie d'en découvrir davantage.
Et on est là pour effectivement montrer, partager ces films, en parler. Et ce mois-ci, justement, dans Année Lumière, on va se promener il y a plus d'un siècle dans une année où le monde entier va basculer, la Grande Guerre, comme on va l'appeler, éclate partout autour du globe, et l'industrie du cinéma n'est pas épargnée et va connaître bouleversements et métamorphoses autant sur l'écran que dans ses coulisses. Une année terrible où, paradoxalement, la comédie va voir naître son plus illustre représentant et où le cinéma va ouvrir un peu plus les horizons animés de son imaginaire. Bref, aujourd'hui, on discute de l'année 1914.
It's a long way to Tipperary, to the sweetest girl I know. Goodbye, Piccadilly, farewell, Leicester Square. It's a long, long way to Tipperary, but my heart's right there.
It's a long way to Tipperary, on écoutait ça en 1914, alors pourquoi avoir choisi cette année-là, 1914, Serge? Parce que j'explique aux auditeurs, effectivement, à chaque fois que je propose à l'invité de choisir l'année dont on va parler, alors pourquoi 1914, pourquoi cette période?
Alors pour plein de raisons, évidemment, c'est l'année de Chaplin, c'est le début de Chaplin, on en reparlera.
Bien sûr.
C'est une année de mutation, c'est les premiers longs-métrages, c'est la confirmation de l'installation des salles de cinéma en dur, en des vrais palaces de cinéma, c'est aussi évidemment l'arrêt brutal de l'industrie en France. Et en Europe d'ailleurs, pour des raisons de guerre.
Donc, année charnière, véritablement.
Une vraie année charnière où véritablement tout bascule. Et j'aurais même tendance à dire qu'on y reviendra peut-être plus tard, mais autant le cinéma est une aventure européenne, dans la partie créative, dans la partie domination du monde, autant 1914 est l'année où s'amorce cette incroyable bascule où les Américains vont se mettre à être pratiquement les seuls à produire.
On va en parler, ouais.
Et puis on va aller vers le soleil. Donc quelque part, on en reparlera tout à l'heure.
Vaste année, effectivement. Et alors moi, j'aime me rappeler effectivement que là, en 1914, tous les films dont on va parler, tous les gens dont on va parler, étaient plus proches de Napoléon que de nous.
Ah, c'est vrai, vu comme ça.
Et ça, c'est phénoménal quand on s'en rend compte. On se rend compte qu'effectivement, ils étaient plus proches de Napoléon que de 2022. Ouais. Bref, 1914, c'est l'année, on en a parlé bien sûr, de l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand à Sarajevo, un événement qui va mettre le feu aux poudres et déclencher le début de la Première Guerre mondiale. C'est l'année, dans cette guerre, de la bataille de la Marne et de ces fameux taxis, de l'élection du pape Benoît XV et de l'inauguration du canal de Panama. Dans un registre plus léger, c'est aussi celle de l'apparition des premiers feux de signalisation électrique à Cleveland et de l'invention du Foxtrot. Mais 1914, c'est aussi et surtout du cinéma et on est là pour ça. Cette année-là, le public curieux court en salle voir The Million Dollar Mystery, un film à épisode, plus gros succès en Amérique, notamment parce qu'il promet 10 000 dollars au spectateur qui proposera la meilleure des fins. Le public va aussi voir Fantomas contre Fantomas du français Louis Feuillade. Il se découvre enfin de nouvelles stars comme la géniale Mary Pickford ou ce drôle de personnage, un vagabond rigolo qui fait sale comble à chacune de ses aventures et qui est incarné par un jeune anglais, son nom Charlie Chaplin. Mais en 14, si les sketchs sont à la fête, un autre type de cinéma anime les foules. Celui-ci ne dure plus quelques minutes, mais des heures entières, et ne se regarde pas dans de petites salles, mais dans de grands théâtres. Un changement de dimension venu d'Italie, pays producteur cette année-là d'un peplum historique qui va être au cœur de notre premier thème, et qui s'appelle Cabiria. Sinfonia del Fuoco, de la bande originale du film Cabiria, réalisé par Giovanni Pastrone, qui va être au cœur de notre premier thème. Alors Cabiria, rapidement, c'est un film qui raconte l'histoire, en pleine antiquité, à l'époque des guerres entre Rome et Carthage, l'histoire d'une fillette romaine, Cabiria, qui est vendue à l'ennemi pour être sacrifiée dans un temple, puis sauvée par un espion romain, et il va lui arriver de nombreuses aventures alors que justement Rome et Carthage se livrent une guerre sans merci. C'est un film qui est adapté du roman Carthage en flammes d'Emilio Salgari, publié quelques années auparavant, et qui est tourné à l'époque dans les grands studios de Turin, et qui coûte 1 million de lire, qui est le film à l'époque le plus imposant, le plus cher du cinéma italien. Justement, Serge, vous vous souvenez de votre première vision de Cabiria, vous
Oui, je m'en souviens, parce Cabiria. Que c'était une version courte, une copie nitrate probablement de ressortie des années, fin des années 30, donc il y avait déjà cette musique sonore. Je rappelle qu'en 1914, le cinéma est muet, donc il y a eu des compositions musicales, mais qui n'ont pas été jouées bien souvent sur le film. C'est assez amusant. Cabiria date de 14. Le film va ressortir en Europe en 28-29 avec le système de son, qui est un système sur disque. Mais les disques aujourd'hui sont perdus, enfin en tout cas, presque tous. Donc, on peut encore avoir une petite idée de ce qu'était la ressortie de la fin des années 20. Et puis après, dans les années 30, il y a une version beaucoup plus courte, avec cette fois une musique enregistrée. Donc, ça devient presque un film muet, mais présenté de manière sonore. C'est cette version-là que j'ai vue. Et évidemment, elle se concentre autour des scènes où les décors sont les plus spectaculaires, etc. Donc, à l'évidence, il s'agit de montrer la supériorité du cinéma italien. Il s'agit de dire qu'on a dépensé beaucoup d'argent. Franchement, ils ne l'ont pas dépensé en vain, parce que c'est tout à fait impressionnant. C'est magnifique. En même temps, l'année suivante, ou plutôt 2 ans après, quand vous allez voir le film de Griffith, Intolérance, tourné aux États-Unis, il l'a fait encore plus gros. Donc la course au délire est lancée, avec une petite particularité, c'est qu'aujourd'hui, on peut faire à peu près n'importe quoi avec les effets numériques, mais à l'époque, pour montrer une statue qui fait 30 mètres de haut, le seul moyen, c'est de construire la statue en 30 mètres de haut, ou alors de prendre une petite statue de 30 cm et la mettre très près de la caméra pour faire croire qu'elle fait 30 mètres. Mais voilà, et c'est des jeux de fumée, les figurants ne coûtent rien. Donc c'est des centaines de milliers de décors, un délire quoi. Ouais. Et on peut même s'imaginer, moi je pense toujours quand je vois ces images-là, au réalisateur qui devait être là en disant allez-y, on tourne. Mais à l'époque, il n'y avait pas d'amplification sonore. Donc comment les gens l'entendaient, sachant que le mec, même en beuglant comme un malade, malade. Il a devant lui 3000 personnes qui forcément faisaient du bruit, avec envoyez les fumigènes, envoyez les explosifs, envoyez les machins. Et au moment où il dit tourner, c'est clair que personne l'entend, quoi.
Oui, parce que le film s'ouvre sur l'éruption du Vésuve et du coup il y a un temple qui explose,
voilà,
qui tombe.
On va commencer par l'explosion d'un temple, on verra après.
Ouais, voilà, ah bon, après,
voilà. Il y a plein d'effets quand même qui ont été des effets d'optique qui ont été imaginés à l'époque. Et puis il y a une chose aussi, c'est que le spectateur en 1914 n'a vu des films que depuis moins de 20 ans. Et donc, puisque le cinéma a été inventé, je vous le rappelle, le 28 décembre 1895, donc presque en 1896. Et en fait, le public est encore très crédule. Quand on lui montre une petite maquette d'un petit bateau truc et qu'on l'a fait couler au fond de l'eau, il suffit d'un petit peu de fumigène, de machin de truc, et puis...
Il n'est pas éduqué encore à l'image. Et
exactement.
Voilà.
Donc, on voit bien que Cabiria est un film, en ce sens, encore primitif. Il y a quelques effets de mouvement de caméra et de choses comme ça.
Oui.
Mais enfin, globalement, on est quand même inscrit à l'intérieur d'une grammaire cinématographique plus proche des années 10 que celle des années 20.
Bien sûr. Et alors justement, là, on en a parlé, c'est un événement.
Ah,
c'est
oui,
un événement par tout ce qu'on a cité là à l'intérieur du film, mais c'est aussi un événement pour un autre aspect, parce qu'il, notamment, c'est un film qui dure 3 heures.
Effectivement, 1914, c'est la première année où le long métrage commence à exister.
Oui.
Avant, une séance de cinéma, c'est une succession de courts métrages qui durent. L'unité, effectivement, comme vous le dites, c'est la bobine. Une bobine, c'est à peu près 10 minutes. Et en gros, vous avez une féerie, un drame, un petit film d'actualité reconstitué.
Les gens allaient voir plusieurs films.
Donc, on rentre dans une séance de cinéma pour voir plusieurs films qui, en général, sont sur des registres totalement différents. Il y a quelques séances où c'est des films de voyage uniquement ou des films à trucs uniquement, mais en général, les forains et les gens qui passent des films à l'époque ont tendance à vouloir tout mélanger pour pouvoir ramasser le plus grand public possible. À partir de 1912, le premier long métrage américain s'appelle From the Manger to the Cross de Sidney Olcott, mais la réalité, c'est qu'il y a déjà des rallongements de films. Par exemple, La Passion de Notre Seigneur Jésus-Christ, qui date de 1907 de Zeka, dure environ 1h10. En 1914, Maurice-André Maître va produire une nouvelle Vie du Christ qui va durer plus d'une heure et demie, qui n'aura que très peu de succès puisque la guerre va éclater juste derrière. Et d'ailleurs, Maurice-André Maître mourra au front. Mais c'est pour vous dire que on sent la naissance du nouveau format du cinéma avec le grand film. Et le grand film, ça veut dire qu'il va pouvoir y avoir un générique. Pour la première fois, on va pouvoir mettre le nom des gens au début du film, un film de Pastrone ou un film avec Marie Pickford.
Ça, c'est une révolution, ça, du
coup. C'est une vraie révolution parce que c'est même tout le système commercial qui va changer. Lorsque on parle de Chaplin, qui commence donc en 1914, Chaplin, le nom n'existe pas. Ce qui existe, c'est The Tramp. Les gens veulent voir le vagabond. Il y a plein de gens qui se déguisent en vagabond, mais non, ils veulent voir The Tramp. Et ils n'apprendront que c'est Chaplin qu'en 1915, au moment où, autour de Chaplin, des hommes d'affaires, et notamment son frère, vont avoir l'idée de dire « mais il faut marketer Chaplin ». Chaplin est un produit au même titre que ses propres films. C'est le début du merchandising, etc. Donc on voit bien que 1914-1915, c'est la fin d'une période de flibustier du cinéma où n'importe qui pouvait faire quelques courts-métrages et essayer de les vendre. On paye pour voir une heure de film et puis c'est tout.
Ouais.
Là maintenant, on paye pour aller voir Cabiria. On paye pas pour aller voir du film,
voilà.
On paye pour aller voir Cabiria.
L'événement Cabiria, c'est 12 bobines, c'est à peu près 3 heures, 2h50 et quelques. Et
absolument.
Et en plus, c'est, je l'ai cité un peu en introduction, on sort du théâtre forain des premiers temps du cinéma, même de l'année 1910, et Cabiria est, au-delà de sa durée et de sa dimension, est montré aussi dans des théâtres en dur, vous l'avez dit.
Il ne peut être montré que dans des théâtres en dur.
Je veux dire,
on ne peut pas, dans un truc de fête foraine, demander aux passants d'attendre 2 heures ou 2 heures et demie avant la prochaine séance. Donc, quelque part, c'est en fait, ça scelle par le fait et par l'histoire l'idée que le cinéma a changé. Et c'est quelque chose de vraiment totalement majeur et déterminant. Pendant, en 1914 et après, pendant les 4 années de guerre, les gens vont continuer à aller voir des films de cinéma, ils vont aller voir des films un petit peu plus longs, les courts-métrages ont pratiquement disparu, ils servent de faire-valoir, il y en a de moins en moins. Mmh. Les films de Chaplin, d'ailleurs, n'arriveront en Europe qu'en 1916-1917. Hein. Avant, on ne le connaît pas. Les films ne voyagent pas. Comment pourraient-ils voyager ? Et donc, quelque part, je dirais que Cabirias, c'est le début avorté de quelque chose qui va s'imposer derrière. Mais de la même manière que vous évoquiez tout à l'heure Fantomas contre Fantomas ou le Million Dollar Mystery, le côté série que l'on connaît aujourd'hui avec Netflix est un autre format qui n'a rien à voir avec le cinéma, mais qui s'impose déjà à l'époque. Je vois Les Exploits d'Hélène, qui en français s'appelle Les Mystères de New York, qui est sorti en 1915 en Europe. Les Mystères de New York, c'était 48 épisodes et il s'agissait toutes les semaines de retourner voir le film. Alors ça, c'était l'accroche, voilà. Et puis derrière, il y avait des films qui duraient une heure, 1h05, 1h10. Le Cabiria est une exception. Cabiria, c'est comme le Ben-Hur en 1925 ou comme le...
Comment dire, comme Avatar en 2009 ?
Quasi, pratiquement. C'est-à-dire
un film qui change, ou le Technicolor, ou des années comme ça, où des films vont changer la...
C'est à peu près ça. C'est des années où le système global ne bascule pas, mais en tout cas, le virus qui va faire que tout le système va changer est arrivé.
Ouais. Et
le chanteur de jazz qui installe le son, etc. Alors c'est amusant parce que en 1915, figurez-vous que... Pas 14, 15. Ouais. En 1915, en France, est inventé le karaoké. Le principe est très simple. Oui, c'était un monsieur qui s'appelait Gélordier, qui avait une petite salle qui était juste en face du Rex, qui a été longtemps le cinéma des boulevards où il y avait la Cinémathèque française, une petite salle. Et dans cette salle, les gens venaient et regardaient des films courts qui étaient des films avec des chansons patriotiques. Et donc, sur le film, on voyait l'image de ce qui était raconté dans les paroles. Et derrière l'écran, il y avait caché un chanteur qui, à chaque séance, chantait en synchronisme avec les images. Et après, c'était allez, reprenez en chœur, et les gens reprenaient en chœur le truc. Vous voyez, le karaoké dont on pense que c'est né avec les DVD et les trucs, non.
Pas du tout, les années 1910.
En gros, tout a été inventé entre 1900 et 1920.
C'est vrai que cette période-là, justement, c'est une année où le cinéma cherche son format, cherche sa forme. C'est une sorte de matière malléable qui évolue avec des idées, les gens testent des choses et le public, on en a parlé, se crée une sorte d'éducation aussi à l'image et au format. Ah, on va rester une heure, on va rester deux heures. On peut rester deux heures dans une salle à regarder la même histoire, c'est possible.
Ouais, c'est clair. Et je ne sais pas si Cabiria aura été un succès commercial ou pas. Parce que le format est tellement innovant et le coût du film a été tellement énorme que j'imagine que les chiffres d'entrée ont dû être importants, mais la guerre est arrivée. Cabiria a un petit peu vécu et à la fin de la guerre, Cabiria est, comme je le disais, un tout petit peu démodé dans sa facture. Quand on voit ce que tourne Griffith aux États-Unis, pas forcément d'ailleurs Intolérance, qui est aussi un film assez primitif dans sa facture, mais dans les années 20, ça y est, quoi, c'est parti, on est sur autre chose.
Pour compléter ce qu'on a dit, le Cabiria, vu qu'il est montré dans des théâtres en dur, hein, en général c'est des beaux théâtres avec des moulures, il y a moins cet esprit forain, la place est plus chère. Et donc du coup, effectivement, un film n'a pas la même rentabilité.
Mais l'orchestre est plus cher aussi. Ouais, donc quelque part, c'est très compliqué. Le cinéma apprend à marcher. Mais voilà, donc ça fait partie de ces films événements qui marquent un basculement, mais le basculement va mettre beaucoup de temps à s'effectuer.
Justement, je parle de Cabiria. L'année précédente, en 1913, les Italiens produisent un autre film du même acabit, Covadis, qui a cette même proposition, un film long, épique, pareil, présenté dans les théâtres. C'est quand même étonnant, cette ambition italienne, une innovation européenne de changer la forme, de changer le cinéma. À votre avis, ça vient d'où, le fait qu'en Italie, il y ait un mouvement comme ça de... On va faire un cinéma plus grand, plus ambitieux.
Honnêtement, je crois que c'est des situations de structuration du marché. Il y avait plein de petits producteurs, les Ambrosio, les Chines, etc. Et Torino Film, évidemment. Il s'agissait de prendre le lead. Voilà. Donc, c'est vraiment des choix, des investissements en termes d'image. C'est aussi l'envie de conquérir le monde et d'inventer des nouvelles formes. Je crois que c'est... En fait, c'est le moment où la grammaire cinématographique est la plus fertile. Donc, quelque part, les gens vont partir dans toutes les directions. On sent bien qu'il y a un terrain de création à cet endroit-là. Et malheureusement, l'Europe va être coupée dans, dans son élan. Et le cinéma qui viendra après sera un cinéma, après la guerre, en Europe, sera un cinéma un petit peu plus intimiste parce que malheureusement, nous n'aurons pas d'autres grandes possibilités. Il faudra attendre le milieu des années 20 pour que la France retrouve sa munificence, que les grands studios se réinstallent avec beaucoup d'argent, beaucoup de super productions, les Albatros, les ciné-romans et tous ces trucs-là. Enfin, c'était tout à fait passionnant. Mais 1914, voilà, vous me posiez la question.
Oui.
Il y a exactement une demi-heure. Pourquoi 1914? Eh bien, parce que c'est là que ça se passe.
C'est une bonne réponse. Alors, vous l'avez dit, en 1914, juste avant la guerre, les grands pays de l'industrie cinématographique, c'est la France, c'est l'Italie, c'est la Grande-Bretagne. Les États-Unis sont évidemment là.
Il y a beaucoup de films au Danemark et en Norvège.
Voilà, en Europe, véritablement.
Voilà,
les États-Unis sont là, mais ils sont encore dans un rôle. Alors, ils sont présents, mais ils sont encore dans un rôle d'outsider, véritablement.
Ouais.
Ils sont encore dans un rôle d'outsider. Et la Première Guerre mondiale, qui débute donc à l'été 1914, va venir bouleverser tout ça. À votre avis, les États-Unis doivent-ils leur hégémonie actuelle sur le cinéma mondial, ou en tout cas occidental, à ce basculement de la Première Guerre mondiale?
Je ne pense pas. Je pense que le basculement de l'hégémonie pour les États-Unis, c'est la Deuxième Guerre mondiale. C'est le plan Marshall. Après la Deuxième Guerre, l'industrie française est complètement à plat et les États-Unis vont aider évidemment les pays à se reconstruire, mais en échange, les pays vont ouvrir la voie à tous ces films qui ont été produits pendant 6 ans aux États-Unis, mais qu'on n'a pas pu distribuer. Je veux dire, Casablanca sort en France en 1945 ou 46 et tous les grands films sont à l'avenir,
tous
les Pinocchio, les machins, les trucs.
Après, ouais.
Voilà, donc, et là, tout d'un coup, évidemment, l'industrie française ne fait pas le poids. Enfin, quand vous combattez.
Pour vous, c'est vraiment la Seconde Guerre mondiale plus que la Première.
À l'imaginaire américain et de l'arrivée de Hollywood, oui, c'est
le
ça.
Le soft power.
Le soft power. De toute façon, en 1918, il n'y a pas encore Hollywood. Hollywood, ça n'existe pas. Plutôt, ça commence à exister.
Bah justement, mais... c'était le follow-up de ma question. C'est que justement, dans cette année 1900, pendant la Première Guerre mondiale, à l'époque où l'Europe, on va dire, est un peu gelée par ce conflit mondial, ça laisse peut-être la place aux États-Unis, à Hollywood en tout cas, de commencer à poser des bases, parce qu'on a, on a quand même le début de la fondation des grands studios américains. On a Paramount qui se fonde dans ces années-là, on a Universal qui, pareil, Columbia Pictures, qui arrive un peu dans ces années-là. Est-ce qu'ils n'ont pas pris de l'avance à ce moment-là?
Alors non, ils n'ont pas pris de l'avance. En fait, toutes ces sociétés étaient plus ou moins nées sur la côte Est. Il faut savoir qu'au début du siècle, en Amérique, l'industrie cinématographique est essentiellement centrée autour de Fort Lee, qui est juste à côté de New York, où il y a plein de studios. Il y a toutes ces boîtes, les Universal, les Nestor, les machins, les trucs. Un petit peu dans le sud, vers la Floride, parce qu'il y a du soleil. Et donc, quand il neige à New York, on peut tourner ailleurs. Donc, les premiers studios sont tournés là et sont construits là. Et en fait, évidemment, à mesure que la civilisation s'installe sur la côte ouest, on se rend compte que d'abord, la terre y est très peu chère. Globalement, il n'y a que des orangeries, donc le terrain n'y coûte rien, et que il y a du soleil 360 jours par an. Donc il y a les premiers aventuriers qui commencent à y aller, puis les deuxièmes, puis les troisièmes, et à l'arrivée, Hollywood va devenir le centre du cinéma, et Fort Lee va disparaître à la fin des années 10. Il faut dire aussi qu'il y a eu un incendie très important en 1914, d'ailleurs, je crois que c'est Éclair qui avait brûlé, donc il y avait eu beaucoup de... ça avait été très très désastreux. Et puis, les choses se structurent. Ce qui est amusant, c'est que le monde du cinéma américain est quand même composé globalement de banquiers qui contrôlent les studios qui sont à New York et de saltimbanques qui tournent les films qui sont sur la côte ouest.
C'est pas pareil maintenant.
C'est plus exactement pareil maintenant. Exactement. Donc mais c'est vrai que pendant la guerre, cette bascule s'accentue et on sent bien que au moment où on sort de la Première Guerre mondiale, à l'évidence, c'est Hollywood qui produit des films maintenant ou qui va les produire. C'est là où il y a la place de monter des grands studios, de faire des décors en dur, en extérieur, c'est tellement plus simple, donc tout le monde va y aller.
Oui, ça aurait pas changé. La Première Guerre mondiale a eu un impact, mais pas tellement que ça. Et ce qui s'est passé, ce serait de toute façon passé.
Oui, c'est absolument évident. Mondial, vous savez, c'est rigolo parce que Charlie Chaplin tournait à pour le compte, essentiellement à Los Angeles en 1914. Et en 1915, on lui propose un job pour une boîte qui s'appelle S&A, qui est située à Chicago. Donc il va à Chicago, début 1915, donc en janvier. Et vous avez, je ne sais pas si vous avez déjà essayé Chicago en 1915.
Un délice, un problème.
Il n'y a pas beaucoup de vent, je crois. En janvier, mais ça caille, mais c'est pas possible, quoi.
Ah bah c'est quoi, la Windy Town, il y a que ça, ils vendent tout le temps.
Sur le Michigan, et au bout de trois films, il dit « Ok, les mecs, c'est bon, là. Alors maintenant, c'est simple, soit vous me construisez un studio, et il va aller à Niles, et puis après, il va aller sur la côte ouest, en tout cas, près de San Francisco, puis à Los Angeles, soit j'arrête le contrat, quoi. »
Donc, bah, du coup, vous me tendez une perche formidable, Serge, puisque là, on a effectivement parlé de Cabiria et de changement de modèle d'habitude. Justement, Charlie Chaplin.
On va parler moustache.
On va parler moustache, chapeau melon et vagabond, puisque le second thème de notre émission sur 1914 est justement autour de Charlie Chaplin. C'est parti. Cette musique, The Big Chase, vous l'avez forcément entendue, même si vous ne connaissez pas bien Chaplin, elle est tellement iconique, tellement emblématique. C'est une musique adaptée de gimmick musical, de slapstick, de film muet, de cartoon. D'ailleurs, vous, Serge, vous l'avez joué un peu cette musique, mais vous avez l'habitude de jouer de la musique en même temps que des films sont projetés en salle.
Peine 30 ans que je fais ça, oui. C'est-à-dire qu'en improvisation sur des films muets, et effectivement, quand on est sur des séquences. Alors, c'est vrai que les Max Ennett, qui était le producteur qu'on appelait le roi du rire, The King of Comedy, quand il a monté son studio en 1912-1913, c'était à Ellendale, c'était près de Los Angeles. Le principe, c'était on déguise des gens dans des trucs grotesques, on les fait secourir les uns derrière les autres, on met une peau de banane, il y en a un qui tombe et on n'en parle plus. Il y a même une histoire assez drôle, vous savez, les Keystone Cops. C'est-à-dire les flics de Max Ennett. En fait, pourquoi il avait fait des flics? C'est qu'on se demande, mais c'est vrai, pourquoi finalement? Bah, il a fait les flics parce que les policiers de New York avaient changé d'uniforme. Et du coup, les uniformes réformés, qui n'étaient plus conformes, étaient à vendre au kilo. Et du coup, Max Ennett allait acheter les uniformes et il a fait les Keystone Cops. L'opportunisme total, mais c'est le Far West. Donc voilà.
Et du coup, vous, quand vous jouez au piano, vous improvisez véritablement.
Ah, totalement.
Vous voyez ce qu'il y a sur scène et là, hop.
Je suis le premier spectateur des films. C'est-à-dire que je regarde les films. Alors, j'ai un petit peu l'habitude. Donc, 10 secondes avant que le mec se prenne une tarte à la crème, je sais qu'il va se prendre une tarte à la crème. Donc, musicalement, je peux préparer le moment de boum, au moment où il va se prendre la tarte à la crème. Ça, c'est des histoires d'habitude, mais oui, j'adore ça. Et c'est assez étonnant parce que. Quand on joue du piano sur un film muet, on est transporté dans le temps, parce qu'on vit au rythme de l'image que l'on voit sur l'écran, mais surtout, on transporte dans le temps les spectateurs. C'est-à-dire qu'il n'y a personne, après avoir vu un film comme ça, qui vient me voir en disant « Mais quand même, cette musique, elle n'est plus très à la mode. » Ben, il n'y avait pas besoin d'être à la mode, puisque vous avez passé 20 minutes ou une heure en 1915. Donc pour vous, elle est exactement... Et ça marche très bien. Et toutes les expériences qui ont été faites de mettre de la musique de rock, de machin, de trucs, sur des films des années 10, à ce sentiment d'exogénéité qui fait que ça ne fonctionne pas. Je ne dis pas que ce n'est pas inintéressant. Ouais. C'est vraiment très, très intéressant. Mais grosso modo, c'est des expériences musicales créatives. Mais en réalité, ce n'est pas les films. Les films, ils sont faits pour être comme ça.
Pas autrement.
Le pianiste, il est entraîné par le film. Il est entraîné par le film.
Bien sûr. Alors, vous avez parlé de Max Ennett, qui est un réalisateur fameux de ces années-là. Et notamment, vous l'avez dit, de la société Keystone, qui est donc un studio hollywoodien fondé en 1912. Et Max Ennett, c'est le studio, en tout cas, c'est le roi de la slapstick comédie. En 1914, et en 1914, ce studio-là de la Keystone accueille un jeune comédien qui va tout changer et qui s'appelle Charlie Chaplin. Et qui justement, en 14, Chaplin va exploser et va devenir en quelques mois un vrai phénomène aux États-Unis, notamment avec son incarnation du vagabond, The Tramp, vous l'avez dit. Alors, le premier film de Chaplin sort en février 1914, il s'appelle Pour gagner sa vie, et c'est à l'époque Chaplin n'incarne pas encore Charlot, le vagabond. Il l'incarnera seulement dans le second film, qui s'appelle Charlot est content de lui, qui sort quelques semaines plus tard. Pour résumer, pour mettre un petit peu de contexte, Chaplin, en 14, c'est 35 films.
36.
Des courts, des un peu plus longs. On a parlé de bobines à l'époque, donc c'est des, parfois c'est 10 minutes,
des
parfois
demi-bobines,
c'est parfois, des demi-bobines, ouais. des 6 minutes, ou parfois c'est même une heure. Hein,
le roman comique de Charlot et Lolotte.
Voilà, donc il donc, faut imaginer, hein, faut dire qu'à l'époque, les spectateurs ont un Chaplin toutes les semaines, ils ont un nouveau Chaplin qui sort pratiquement, donc c'est assez impressionnant. Avant de rentrer vraiment sur cette année 14 et sur Chaplin en particulier, petit rappel, Chaplin c'est un Anglais qui est né à Londres en 1889, il est mort en Suisse en 1977, 88 ans plus tard. C'est un acteur, réalisateur, producteur, scénariste, compositeur également. Il a une carrière qui dépasse 50 ans. Vous connaissez évidemment Chaplin, Les Temps modernes, Le Kid, La ruée vers l'or, etc. etc. Mais là, on est sur 1914. Qui était Chaplin avant 1914
Chaplin, c'était un gamin de la rue. Sa mère était devenue un petit peu folle et il vivait vraiment de jouer du violon et de mendicité dans les rues de Londres. Et son frère Sidney travaillait dans une troupe de comédiens muets, ce qu'on appelle le vaudeville, c'est-à-dire en gros c'était des petits numéros qui s'enchaînaient sur scène et il a demandé à Fred Carnot qui était le patron de la troupe Carnot des Silent Comedians d'embaucher son frère parce que son frère il était en train de crever de faim et donc Sidney Chaplin fait venir chez Carnot Charlie Chaplin et en 1912 lorsque les Américains veulent la vedette de Carnot pour une tournée américaine et ils veulent Sidney Chaplin, Carnot dit mais non il n'est pas du tout question que je me départisse de ma vedette, je vais bien les avoir, je vais envoyer Charlie Chaplin,
le frangin.
Alors il envoie le frangin qui avait une doublure qui s'appelait Arthur Jefferson et ce Arthur Jefferson deviendra quelques années plus tard Stan Laurel, de Laurel et Hardy. Et donc Jefferson et Chaplin se retrouvent à faire des petits numéros sur scène pendant 6-8 mois, un peu à travers les États-Unis et puis un jour un agent, il se trouve que Fred Mace qui était la vedette comique de chez Keystone, de chez Sennett était sur le point de partir, donc il cherchait un remplaçant et il y a un agent qui va voir le spectacle de la troupe Carnot et qui trouve que ce type-là, quand même, il vraiment, déjà, Chaplin est très fort sur scène. Et il envoie chez Carnot un télégramme en disant « Est-ce que vous avez un monsieur Chaffin dans votre truc ?» Parce qu'on aimerait le rencontrer dans un office d'avocat à New York. Donc, voilà-t-il pas que Chaplin, qui pense qu'il a hérité de sa grand-mère, prend le train, arrive chez ses avocats et les avocats disent « Écoutez, voilà, on voudrait vous proposer un contrat pour le cinéma. » Et Chaplin, en fait, a déjà dans l'idée qu'il va faire du cinéma, mais qu'il veut faire du grand cinéma.
Il a 22-23 ans à l'époque. Hein,
en 14, il a 25 ans.
Ouais, 25 ans.
Et donc, on lui dit « Non, c'est pour Sennett. Vous allez prendre des baffes, des trucs, des tartes à la crème, vous allez courir sur des pots de banane, etc. » Et il se dit « À la limite, je vais faire ça pendant quelques mois et je vais devenir très célèbre et ce sera un début d'un placement important dans le reste de ma carrière. » Il accepte donc, il arrive chez Sennett. L'histoire raconte qu'on lui dit « va te chercher un costume dans la galerie des costumes ». Il prend une veste trop petite, un pantalon trop long, un machin, un truc. Ça, c'est Chaplin qui raconte ça, son histoire.
La légende.
Voilà.
Imprimant
la légende, comme disait John Ford. Et en sortant de ce truc d'habillage, les gens le regardent et soi-disant, ils se mettent à rire, rien qu'à le voir, machin. La réalité, c'est que Chaplin est quand même quelqu'un de tout à fait exceptionnel. Et vous parliez de Charlot est content de lui, Kids Auto Races in Venice, California, c'est le premier film que va faire Chaplin, ou plutôt c'est le deuxième, je ne dis pas en termes de sortie, oui. Vous avez raison, c'est le troisième film qui sortira, mais le premier film que va faire Chaplin s'appelle Tilly's Punctured Romance, et en gros, il y joue dans un décor classique, une poursuite classique, dans un hôtel, avec ma belle Normande, qui était par ailleurs la maîtresse de Max Sennett, etc. Bon, voilà.
Une grosse star à l'époque,
ouais. Et le film se tourne en deux parties, un samedi et un lundi. Mais il faut rentabiliser. Et il se trouve que le dimanche, il y a une course de voiturettes pour enfants qui a lieu à Venice. Venice, Venice Beach, la plage de Los Angeles. Donc ils y vont, sans grande idée, avec deux caméras, avec Lerman qui est le réalisateur, et ils vont avoir l'idée de tourner un film improvisé complètement, où on voit derrière les voiturettes, etc. Et en gros, Lerman essaye de filmer les voiturettes, et il y a ce vagabond qui vient devant la caméra en permanence et qui gâche la pellicule. Voilà, et c'est ça le truc, ça dure 7-8 minutes et franchement c'est pas très
ouais, il s'impose devant la caméra pas, voilà. Et il fait rire le public
autour, c'est pas construit, c'est pas machin, mais pour la première fois on voit des gens les gens qui assistent à la course de voiturettes, qui voient ce personnage de vagabond, Charlot, qu'ils n'ont jamais vu à l'écran, et pour cause, puisque les premières images de Charlot ont été tournées la veille, et on voit à quel point, avec sa gestuelle, avec son truc, il mesmerise, on dit en anglais.
Il fascine
les gens, et c'est un document absolument éblouissant.
Documentaire parce, quasiment. Parce
pratiquement,
que du coup,
pratiquement il faut oublier l'action telle qu'elle est et regarder les gens derrière. Et c'est absolument dingue. Ce qui est incroyable, c'est qu'il y a une séquence où évidemment il se prend un coup de pied dans l'arrière, il tombe par terre. Figurez-vous qu'il déchire son pantalon. Et lorsque le lundi, il va tourner la deuxième partie de Mabel Strange Predicament, son pantalon est déchiré. Et c'est comme ça qu'on a pu dater le jour exact de tournage de chaque truc. C'est formidable.
C'est formidable. Les gens sont formidables.
Mais c'est extraordinaire. Clairement, le succès de Charlot a été tel que, à nouveau, il n'y avait pas encore de générique. On ne parlait pas de Chaplin, mais les gens montraient la silhouette du vagabond et il y avait un truc que les gens pouvaient coller dans leur cinéma en marquant « Il est là. He's here. » Et la silhouette du vagabond, et les gens faisaient la queue juste pour voir le titre.
En quelques mois, il devient une superstar. C'est assez phénoménal.
Absolument, au point même qu'au bout de 4 mois, il en a marre de tourner avec ses réalisateurs médiocres.
Ça va très vite.
Et il dit, je veux faire mes propres films. Son premier film sera Charlot et le chronomètre, 20 Minutes of Love, qui ne dure que 10 minutes d'ailleurs, comme son titre ne l'indique pas. Et à la fin de l'année, donc une année, c'est très très court, Sennett va lui dire, écoute, on prolonge pour une année. Et Chaplin dit, d'accord, mais je veux que tu décuples mon salaire. Et Sennett va lui dire, mais je peux pas, tu serais payé plus cher que moi. Et Chaplin va lui dire, mais...
Et plus que Mabel Normande, etc.
Et Chaplin va lui dire, mais les gens payent pas pour aller te voir, c'est moi qui veulent venir voir.
Il a déjà cette conscience.
Mais tout de suite.
Et ce contrôle de l'image et cette intuition de se dire, je vais contrôler
Il a son frère à côté de lui. Ouais. Son frère le guide, son frère l'oriente. Et c'est un homme d'affaires. La première des choses qu'il aurait dû faire et qu'il n'a pas faites, ça aurait été de devenir son propre producteur. Il en avait largement les moyens. Mais en 14, il fait Keystone. En 15, il signe un gros contrat avec Essanay, je l'évoquais tout à l'heure. En 16-17, il va signer un contrat avec encore un autre producteur qui s'appelle Mutual. Et il va falloir attendre 1917 pour qu'il installe son propre studio et la Charlie Chaplin Company qui va être sa propre société de production.
Et après 1919, United Artists...
Oui,
United Artists sera encore une autre aventure avec Marie Ford et Douglas Fairbanks. On l'a dit à l'époque, il y a quand même d'autres stars. Il y a Mabel Normande, il y a Roscoe Fatih Arbuckle. Pourquoi ce personnage du vagabond va taper juste et créer ce succès fou, là où d'autres personnages, pas forcément.
Honnêtement, je pense que c'est à cause de ses années de scène. Il sait quand les gens vont rire, il sait comment... Vous savez, en fait, le problème des théâtres à l'époque, c'est qu'ils sont très très mal sonorisés. L'acoustique est lamentable. Donc, en fait, quand Carnot fait ses silent comedians, en fait, c'est des gens qui misent tout sur la pantomime. Donc, on rit, mais ils n'ont pas besoin de parler. Et d'une certaine manière, ils apprennent sur scène la dynamique, la rythmique, la chorégraphie du spectacle pour le public. Mais c'est même pire que ça. C'est qu'ils savent combien de temps le public va rire et le temps qu'il faut avant de faire la blague suivante. Tout est histoire de rythme. C'est vraiment de la musique. C'est syncopé, c'est synchronisé. Et quand on voit les films... Je vais vous donner un exemple. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Stan Laurel a suivi exactement la même école. Et il y a gros à parier que le succès de Laurel et Hardy vient aussi de cette école-là.
Qui arrivera plus tard.
Mais il se trouve que l'un des premiers films de Laurel et Hardy en tant qu'équipe, c'est La Bataille du siècle, The Battle of the Century, qui doit dater de 1927, fin 27, début 28. Et en gros, c'est le film où il y a des centaines de mecs, des milliers de tartes à la crème, et tout le monde se balance ça à la figure. Et ce film était perdu, on l'a retrouvé il y a une dizaine d'années, et évidemment, c'est un film légendaire, donc j'attendais de le voir, je le regarde, et j'ai été horriblement déçu. J'ai trouvé ça pas drôle du tout. Mais vraiment, c'était tragiquement pas drôle. Et pourtant, Dieu sait que j'en ai vu des comédies. Eh bien, trop tard, j'avais annoncé que j'allais passer le film. Je passe le film en public. Et en fait, c'est comme, vous savez, un tabouret à deux pieds, il tombe. Avec trois pieds, il tient. La musique, le film, et le public,
la salle,
l'expérience, les rires ouais. qui sont synchronisés avec le rythme du truc, c'était extraordinaire, c'était explosif. Mmh. Donc on se rend compte de cette conscience-là, et je pense que tous les autres comiques, à l'époque, Babe Hardy commençait à tourner déjà, Jimmy Aubrey, il y en a plein d'autres, plein. Et ben tous ces mecs-là n'avaient pas l'expérience de la scène, et donc ils ne savaient pas construire des films, ou en tout cas fabriquer des spectacles.
Un gag, Chaplin, un rythme,
mais oui, Chaplin une énergie. Chaplin sait qu'une histoire qui doit se raconter en 3 minutes, si vous la racontez en 6 minutes, elle est morte.
Et en plus, il y avait la bobine derrière, donc attention, il te reste 30 secondes, il faut que tu cloutes, il faut que tu boucles. Il y avait cette...
Il a aussi un peu inventé le montage. Hein. C'est-à-dire que le Chaplin montait ses images de manière très inventive, même déjà à la fin 1914.
Je suis un immense fan de Chaplin, c'est l'un des... cinéaste qui a ouvert.
Personne
comme
n'est parfait, hein, parce que vous savez comme moi que le meilleur c'est Keaton, mais il a commencé en 1917.
C'est très drôle parce que effectivement, Chaplin a été une porte ouverte, notamment parce que mes parents avaient tous les MK2, les fameux MK2.
Bien sûr.
Et avec l'âge, c'est vrai qu'avec l'âge, je commence à quitter un peu Chaplin pour apprécier de plus en plus Keaton, mais vous m'excuserez, mais Chaplin, c'est, on va dire, c'est le choix du cœur.
C'est votre Madeleine.
Pour conclure ce thème autour de Charlie Chaplin, j'aimerais juste évoquer, là, on a parlé de cette année 1914-1915 et des premiers films de Chaplin. Chez Lobster Film, vous avez. Un documentaire qui s'appelle « Naissance de Charlot oui. » et un coffret DVD justement.
Que j'ai
avec,
co-réalisé avec Eric Lange, mon camarade. En fait, l'idée était de raconter l'histoire de Chaplin jusqu'au moment où il est devenu son producteur, donc fin 1917, début 1917. Et en réalité, cette histoire nous a paru extraordinaire. C'est vraiment, comme on dit, « from rags to riches », du ruisseau, du caniveau, jusqu'au sommet. En 1917, Chaplin est l'homme le plus célèbre au monde. Et il y a de la marge.
Alors que 10 ans avant, il est dans les rues de...
Il sait pas comment manger. Voilà, c'est vraiment une histoire absolument incroyable.
C'est aussi ça, l'American Dream, peut-être. Il incarne aussi une certaine façon...
Oui, alors il y avait le revers de la médaille qui était que Chaplin était toujours anglais. Et on disait, mais pourquoi Chaplin ne vient pas se battre sur le front alors que les Américains entrent en guerre en 1917 et Chaplin est accusé d'être un jaune, un lâche, truc. Alors qu'en fait, il envoie énormément d'argent en Europe. Il fait des bond rallies où il lève des milliards pour financer l'effort de guerre. Il fait même un film qui s'appelle The Bond, qui est absolument délirant autour de ça et très inventif. Donc non, Chaplin n'était pas du tout un lâche. Le truc, c'est que les Anglais ont même été jusqu'à faire publier un message disant « Mais on ne veut pas que Chaplin vienne se faire tuer sur les lignes avant de truc. On veut qu'il reste derrière pour soutenir l'effort de guerre. Il est beaucoup plus utile là où il est que s'il venait devenir de la chair à canon en Europe. »
Et ça rejoint un peu ce que vous disiez au début, où on était dans une époque où on était en train de se dire le pouvoir du cinéma, le pouvoir des images, il y a peut-être quelque chose à faire par rapport à ça, et du coup, ça, il y a peut-être quelque chose...
C'est absolument clair. Voilà. Absolument.
C'est limpide. Merci beaucoup Serge pour cette conclusion. Voilà qui conclut parfaitement ce second thème sur notre émission autour de 1914. On est toujours avec Serge Bromberg et on s'en va sans plus tarder vers notre troisième et dernier thème.
Ladies and gentlemen, I give you Gertie the Dinosaur. I will speak to Gertie and she will do everything that I ask her to. Come on, Gertie. Come on out and take a pretty bow. That's a good girl. Now come on up front here. Out of the audience, Gertie. Stop that nonsense.
Arrête ce non-sens, arrête cette absurdité. Cet extrait sonore que vous venez d'entendre, c'est un extrait qui vient de Disney Présente Gertie, qui est un programme éducationnel de Walt Disney dans les années 50, qui mettait en scène un spectacle de 1914 qui présentait le film Gertie le dinosaure, qui va être au cœur de notre troisième thème. Alors Gertie le dinosaure, c'est un film d'une douzaine de minutes, sorti en février 1914, qui raconte l'histoire de l'illustrateur et cartooniste Winsor McCay, qui parie à ses amis, lors d'une visite au Muséum américain d'histoire naturelle, qu'il peut faire revivre un dinosaure grâce à des dessins animés. et on vous laisse découvrir s'il arrive à le faire. Mais en gros, voilà, c'est un peu l'histoire du film. Alors, c'est un film réalisé par Winsor McCay. Winsor McCay, c'est qui Winsor McCay, Serge, pour les auditeurs?
Winsor McCay, c'est un monsieur qui dessine de manière admirable et qui a un univers très, très personnel. Il a la dernière page du Chicago Tribune du dimanche et c'est des pleines pages où il raconte l'histoire de Little Nemo. C'est lui qui invente ce personnage. Il invente les rêves d'un mangeur de fondue au Chester, qui est un truc où c'est des histoires qui commencent toutes très bien et puis ça devient complètement délirant. Et le dernier dessin de la page, c'est toujours le héros qui est tombé de son lit et qui dit « Oh, j'aurais jamais dû manger cette fondue hier soir, ça m'a fait faire des cauchemars. » Et c'est un type qui avait un univers visuel éblouissant et il faisait ça dans la journée et la nuit, le soir, il donnait des spectacles où il dessinait des caricatures des personnalités sur scène, essentiellement d'ailleurs à Broadway.
Des spectacles, voilà, vraiment.
Il faisait des spectacles, voilà, où il dessinait des caricatures.
Être vivant.
Voilà, absolument. Donc, c'était quelqu'un qui était un entertainer avant que la radio n'existe, avant que la télévision n'existe. Et donc.
C'est un peu le pionnier de la BD moderne, d'une certaine manière.
C'est certainement c'est l'un des pionniers de la BD moderne. On est dans les années 10, hein, enfin 1900-1910, et il va continuer à faire des films d'ailleurs jusqu'à la fin des années 20. Mais il va même faire en 1916, on est un petit peu plus tard, un film qui s'appelle Le naufrage du Lusitania, qui sera un film politique, promotionnel, engagé, un dessin animé de propagande qui sera probablement le premier dessin animé de propagande. Donc, Winsor McCay a évidemment regardé les films d'animation français. Je vous rappelle que le premier dessin animé a été fait par Émile Cole, ça s'appelle Fantasmagorie et ça date du mois d'août 1908. Et donc, il s'en est inspiré et à un moment, il s'est dit, mais je peux faire d'autres choses. Donc, il a fait un film qui s'appelle Winsor McCay Animation pour la société Vitagraph où il s'essaye à faire des mouvements d'animation, etc., avec ces personnages, et ça marche extraordinairement bien. Les gens adorent ça. Donc, il est d'une certaine manière l'inventeur du dessin animé américain. Et puis après, il va faire Gertie le dinosaure. Alors, Gertie le dinosaure, c'est son film le plus célèbre et de loin. Et quand je faisais des études de cinéma il y a très très longtemps, j'en ai pas fait très longtemps, j'avais un professeur qui nous racontait l'animation et un jour il dit oh, vous allez voir Gertie le dinosaure, c'est absolument extraordinaire, mais vraiment c'est un film, c'est éblouissant. Et alors si vous voulez, on voit Gertie qui arrive, il sort d'une caverne, il bouge une patte, il bouge une autre patte, il bouge la tête, il se promène. Enfin, on s'en merde.
Ouais, vu comme ça, c'est bizarre.
C'est le film le plus nul qui existe. Et je me suis toujours dit, mais pourquoi un mec aussi génial que Winsor McCay fait un film aussi lamentable? Et mon professeur me disait, mais non, mais tu sais, tout est dans la narration, la contre-narration, la profondeur de champ, inverser les valeurs, les machins, les trucs. Et je dis, mais qu'est-ce que c'est du bullshit intégral? Enfin, qu'est-ce qu'il me raconte des salades? Et voilà. Et puis un jour, j'ai compris en fait en lisant un bouquin d'un monsieur qui s'appelle John Kainmaker, qui est un très très grand historien de l'animation. Et John Kainmaker raconte qu'en réalité, Winsor McCay avait inclus Gertie dans son numéro de vaudeville, c'est-à-dire qu'il montait sur scène, il faisait les dessins de toutes les personnalités du moment, un dessin de Chaplin, un dessin de, pas de Chaplin en 14, mais après il a dû le faire très probablement, et toutes les personnalités dont le visage était connu, et à la fin, il enlevait sur une sorte de paperboard, il enlevait la dernière page, restait une page blanche, et tout d'un coup sur cette page blanche il disait je vais vous faire bouger un truc, et il faisait semblant de dessiner un dinosaure. Évidemment, un projecteur prenait la suite et les gens voyaient McCay dessiner le dinosaure, se mettre à côté et dire allez vas-y maintenant, bouge une patte, bouge la tête, et les gens comprenaient pas parce que Winsor McCay donnait des ordres au dessin et le dessin lui obéissait. Donc c'est absolument inimaginable.
On est sur de la magie à la Méliès, on est sur du
totalement.
Voilà, c'est le cinéma magique.
C'est le cinéma magique. Alors, il a fait ce morceau bien souvent, et puis après, bon, évidemment, c'est devenu démodé, le vaudeville lui-même a disparu, le principal réseau de salles de vaudeville a fermé, c'était le réseau Keith Orpheum, et ils ont été revendus à Joe Kennedy, qui était un entrepreneur et qui a monté la RKO, Radio Keith Orpheum, où il produisait d'un côté et il distribuait dans ses salles de vaudeville transformées en salles de cinéma à la fin des années 20 des films sonores. Mais donc, c'était l'époque où les réseaux de vaudeville étaient encore là. Et donc, lui, McKay, a eu sa notoriété, sa célébrité absolument énorme. Et puis, quelque part, le souvenir a été perdu du morceau du numéro qu'il faisait. Et c'est en fouillant dans les archives de Windsor McKay qu'on a retrouvé son petit calepin où il y avait marqué « tête, pied, citrouille ». Citrouille, parce qu'à un moment, il dit non, Gertie, t'es vraiment très méchant. Alors Gertie commence à pleurer, et parce qu'en plus, il a un fouet, il dit non, Gertie, t'es très méchant. Et alors Gertie se met à pleurer, et du coup, Windsor McKay prend une petite, alors soit une orange, soit une petite citrouille, et il dit tiens, Gertie, allez, on fait la paix. Il fait semblant de lancer la citrouille vers l'écran. Et puis il cache la citrouille et il y a une citrouille dessinée qui rentre dans l'écran.
Prend le relais
et Gertie attrape la citrouille. Vous voyez, ça c'est des choses qu'on voilà.
C'est formidable.
Ah bah c'était Pixar avant l'heure quoi. Donc moi j'adore ça et c'est vrai que j'adore faire ce numéro là parce que.
Oui parce que vous le faites effectivement.
Je suis la personne au monde qui l'a le plus fait.
Voilà dans Retour de Flamme et dans vos spectacles vous projetez Gertie et vous prenez la place de Windsor McKay ou vous faites cette interaction avec Gertie
absolument,
à l'écran.
Absolument mais moi je suis un showman au sens où j'aime beaucoup rire. Voilà. Et du coup, suivant ce qui s'est passé dans la salle, j'invente des trucs complètement baroques vis-à-vis de Gertie. Je sais comment Gertie va réagir, évidemment, puisque de toute façon, ça c'est fixe. Mais je construis autour de ça des trucs pas possibles. À un moment, je lui dis, t'as vu Gertie, mon piano, c'était génial. Alors là, Gertie, il dit non. Je dis, quoi ? Mais j'ai super bien joué. Non. Je dis, bah oui, mais enfin, le public, il était quand même content. Oui. Mais c'est parce que le public, il est génial. Oui.
À vous adapter à l'interaction.
Et parce que je sais qu'il dit deux fois non, une fois oui et une fois non.
D'accord.
Donc voilà, c'est formidable. Donc à nouveau, tout ce qui reste du cinéma de cette période-là, c'est incroyablement vivant. On a un peu le sentiment que quand on regarde des films des années 40, 50, 60, on est enfermé dans la nostalgie, mais c'est un cinéma qui vit dans son propre univers.
Ouais.
Alors que le cinéma muet et le cinéma de 1914 et de ces périodes-là, c'était un cinéma tellement inventif que c'était presque du spectacle vivant. On dit toujours, oui, il jouait de la musique, mais qu'est-ce qu'il jouait comme musique sur les films en 1914 ? Mais en fait, on s'en foutait. Vous savez pourquoi on jouait de la musique en 1914 ? Mais pour une raison unique, c'est qu'en fait, si quelqu'un disait « Ouais, c'est nul le film », eh bien, on l'aurait entendu et ça aurait été contagieux. Alors, on mettait de la musique, comme ça, si quelqu'un n'est pas content ou qu'il se met à commencer à parler, les autres ne l'entendent pas.
Oh là là, ils sont malins.
Non, mais c'est, vous voyez, tout est logique. C'est le Far West. Faut que ça marche.
C'est vrai que je me souviens de votre séance où de Gertie, c'était il y a quelques années au Forum des Images, où vous aviez dit, regardez, Windsor McKay, il ne voulait pas se tracasser à faire Gertie qui se lève. Du coup, il a mis un oiseau qui passe dans le ciel et au même moment,
passe en haut à gauche et comme ça, moment, en bas à droite, il fait un petit truc
fumée,
foireux,
hop,
bien sûr.
Fait un truc foireux.
Mais c'est des trucs de magicien.
Ouais, bien sûr.
En fait, il faut se rendre compte. Le cinéma en 1914, c'est pas le cinéma que vous connaissez aujourd'hui.
Non.
Quand vous allez au cinéma, il n'y a pas d'air conditionné, il n'y a pas de gradin. Vous êtes sur des chaises, c'est à plat. Avec un peu de peau, la personne devant vous sera un monsieur. Mais si c'est une dame avec un grand chapeau, bah vous verrez rien, parce que les dames, elles ont un chapeau. Et puis, les gens, ils se lavent pas, donc ça sent pas très bon. Et puis, il n'y a pas d'aération. Et puis, il y a un autre problème, c'est que les gens de la haute ne vont pas au cinéma. C'est un art pour les pauvres. Donc, quelque part, la plupart des gens qui viennent là, bah, ils ont des tics, des poux, des trucs. C'est un endroit où vraiment on attrape des cochonneries. Donc, en fait, entre chaque séance, les exploitants passent du désinfectant avec... Ils attendent que voilà.
Ouais.
Donc quand vous rentrez dans la salle, il fait tout chaud, il fait tout moite. Vous avez une odeur de désinfectant qui vous saute à la figure. Enfin, c'est pas
un bonheur, ça.
Mais ce n'est pas le cinéma d'aujourd'hui. Et c'est comme ça que Charlie Chaplin a été montré. À l'époque où Charlie Chaplin est montré, ce n'est pas des films pour les enfants. C'est des films pour les adultes qui rêvent de donner des coups de pied au derrière des flics, mais ils n'ont pas le droit. Alors ils vont au cinéma pour voir Chaplin donner des coups de pied dans le derrière des flics. Vous voyez, on a toujours cette image que c'est un continuum, mais en fait, en 1914, le cinéma, c'est encore le cinéma d'avant-guerre.
C'est plus organique que ça.
C'est
encore autre chose. Alors, Serge, vous avez... Vous avez, je l'ai dit au tout début de l'émission, vous avez présenté les émissions, enfin les émissions de télé Cellulo et Saturne Brombi qui présentaient des...
Je faisais deux heures et demie d'antenne sur France 5 tous les jours.
Voilà, des courts-métrages d'animation sur la scène La Cinquième. Vous avez été directeur artistique du Festival d'animation d'Annecy de 99 à 2012. On l'a dit, vous avez animé des spectacles autour de projections, de Gerty, etc. etc. Pourquoi cette fascination pour le cinéma d'animation, Serge ?
C'est pas... C'est plutôt un omnivore cinématographique. Donc, l'animation a été une opportunité, Cellulo, puis le cinéma d'animation d'Annecy. Mais en fait, j'aime pas les spécialistes de ceci qui sont pas des spécialistes de cela. J'aime bien surtout écouter les gens qui sont des vrais spécialistes et qui vont me donner des pistes. Mes goûts importent peu, en fait. J'aime bien faire découvrir. Voilà, c'est surtout ça mon truc. Alors, on a parlé du cinéma muet, mais j'ai fait bien d'autres choses. D'autres univers cinématographiques en tout genre. J'ai parlé du cinéma militaire tout à l'heure, mais je fais 14 milliards d'autres choses et c'est tant mieux.
Alors, pour revenir à Gerty le dinosaure et Winsome McCay, on l'a dit, c'était un pionnier de la bande dessinée. On l'a dit aussi que cette période 1914 et les années auparavant, on est vraiment dans le début du cinéma d'animation. On a Emile Cole, on a Winsome McCay, on en a d'autres. Est-ce qu'on peut dire que McCay avec Gerty, et puis Gerty est l'un des premiers films à avoir ces images clés dans l'animation qui vont être un procédé qui va être repris plus tard dans les films d'animation des autres studios, notamment Disney. Est-ce que vous diriez que McKay est l'inventeur du dessin animé moderne
Non, les deux inventeurs du dessin animé moderne, c'est sans aucun doute Bray qui a inventé le cello. Donc en fait, la possibilité de dessiner le décor et de dessiner les parties mouvantes de l'image uniquement.
Alors des calques
Des calques, voilà, vous voulez vous dessiner un décor et puis le personnage qui bouge devant, c'est des calques et vous n'avez que les parties qui bougent qui sont redessinées. Donc ça, c'est Bray qui l'a inventé. Et l'autre, c'est un petit peu plus tiré par les cheveux, c'est les frères Fleischer qui vont inventer un truc qu'on appelle à l'époque la rotoscopie, c'est-à-dire qu'on photographie, enfin on filme quelqu'un qui bouge et après on va décalquer sur le papier mais à partir de l'image d'une vraie personne. Donc ça donne vraiment un mouvement très fluide, c'est du dessin, mais en fait c'est du dessin qui représente un vrai mouvement, voilà. Et Blanche-Neige et les Sept Nains, 1937, les nains et tous les personnages sont dessinés comme dans du dessin animé moderne, sauf Blanche-Neige, qui, elle, est essentiellement rotoscopée. D'où l'aspect étrange, vous avez l'impression qu'elle, c'est vraiment une femme de chair et de sang, alors que les autres, c'est des personnages de dessin animé. Vous dites, mais pourquoi ? Eh bien, c'est à cause de ça.
D'accord. Voilà.
Donc, c'est eux les vrais inventeurs de l'animation moderne. Après, dans les années 20, les studios se sont battus pour prendre le lead en matière d'animation. Ça a été Walter Land, ça a été Bray, ça a été les frères Fleischer, ça a été plein de gens comme ça. Et puis à l'arrivée, comme toujours, il n'est plus resté que Disney, quoi.
et plein d'autres.
Il est resté Warner et ses Merry Melody. Il est resté Harmonizing à la Metro-Goldwyn-Mayer. Il est resté Paul Grimaud en France.
Bien sûr.
Il est resté. Il y a eu. L'animation est un monde absolument éblouissant.
Et qui est encore en plein de vigueur.
Il n'a jamais été aussi merveilleux. Je dois avouer que j'ai quitté Annecy avec un petit regret. Je trouvais qu'on tournait de plus en plus de films, mais qu'on réfléchissait de moins en moins à ce qu'on tournait.
Enfin, voilà qui conclut ce thème autour de Gerty le dinosaure. Hein, donc, on le rappelle, c'est un film de 12 minutes. Que vous pouvez retrouver, il me semble, sur Internet.
Oui, mais vous ne pourrez pas l'avoir avec l'interaction.
Et vous ne l'aurez
donc
pas.
Ne le regardez pas comme ça.
Allez le voir sur scène. Voilà, sur scène, c'est de la scène, c'est la salle qui fait toute l'expérience complète. Sinon, vous allez avoir la même expérience que Serge, c'est-à-dire le découvrir et dire mais c'est nul.
Absolument.
En fait, c'est un film formidable. Merci Serge, voilà qui conclut ce troisième et dernier thème de notre émission. Et comme d'habitude, avant de se quitter, on va faire un petit tour vers nos coups de cœur de l'année 1914. C'est parti. Voilà, comme d'habitude, on ne va pas vous quitter sans vous donner quelques petits coups de cœur, nos recommandations de l'année dont on a parlé. Donc on a parlé de plein de choses, de Cabiria, de Charlie Chaplin, de Gerty, de l'animation. Mais on a aussi plein d'autres films qui sont sortis cette année-là. Vous, Serge, est-ce que vous avez peut-être un film que vous aimeriez mettre en avant est-ce qu'il y a un Chaplin qui sort du lot, peut-être que dont on n'a pas parlé en détail, peut-être
Charlot Mitron, voilà.
Doan
Dynamite, ouais. Qui est probablement l'un des premiers Chaplin vraiment structuré, fort, bien. On a évoqué évoquais tout à l'heure The Million Dollar Mystery. Il y a deux séries en Amérique qui ont de l'époque qui s'appelaient Les Exploits of Elaine et Perils of Pauline avec Pearl White, qui étaient des films par épisode où clairement on tournait un épisode sans savoir de quoi parlerait l'épisode suivant et on se promenait, il y avait un incendie, bah tiens, il va y avoir un incendie.
Ah, c'est, le Far West,
ouais, c'est le Far West total et c'était vraiment extraordinaire. Et c'était avant 1914, avant que tous les méchants ne soient des teutons, des Huns, des Prussiens, des machins, des trucs.
Suite à la Première Guerre mondiale.
Voilà, exactement. Quoi. Donc ça, c'était encore un moment... voilà.
Donc les périls de Pauline et...
Voilà. Ouais. Et puis, dans un genre, vous ne pourrez pas le voir parce que le film est complètement invisible, mais j'évoquais tout à l'heure la Passion de Notre Seigneur Jésus-Christ de Maurice-André Maître, qu'on essaie de restaurer, c'est compliqué, qui est un long métrage et qui reprend tableau par tableau les séquences évidemment clés des évangiles. Et la particularité de ce film, c'est d'abord que c'est tourné de manière assez statique et très très belle, vraiment comme des tableaux. Mmh. Et surtout, le film est colorié au pinceau ou au pochoir suivant les tableaux. Ce qui veut dire qu'en 1914, alors que la seule pellicule que l'on connaissait à peu de choses près était la pellicule en noir et blanc, vous remarquerez l'historien qui dit à peu de choses près, la vie de Jésus-Christ était coloriée et donc était en couleur. Et ça, c'était quelque chose un peu comme les enluminures, c'était tout à fait éblouissant.
Ah, ça doit être effectivement éblouissant. Merci pour cette recommandation, Serge. Du coup, bah, moi de mon côté, on en parlait, je vais recommander le film Fantomas contre Fantomas de Louis Feuillade, qui est donc un film par épisode, un serial d'une heure dans l'esprit des... Oui, c'était comme on l'a dit, les gens en 1914, quand Fantomas contre Fantomas sort, ils ont déjà vu deux films, trois films Fantomas avant et ils ont la continuation de l'histoire. Et ce film en particulier, Fantomas contre Fantomas, raconte l'histoire de ce maître du crime et du déguisement et la population s'indigne qu'il ne soit pas encore sous les verrous et il commence à lancer une campagne de presse et à suggérer que peut-être l'inspecteur Juve serait lui-même Fantomas.
Non.
Et du coup, il se retrouve.
Non.
Inspecteur Juve se retrouve en prison. Et du coup, il y a une scène notamment de bal où des gens déguisent en Fantomas. Et donc, on se retrouve avec une scène où il y a trois Fantomas dans la même scène. Bref, c'est un film de crime. Pour avoir vu tous les Fantomas, je trouve que c'est le film le plus intéressant, le plus palpitant. Et c'est vrai qu'il y a une belle écriture. Et puis... Il y a vraiment une belle gestion de tension. Il y a des belles scènes, notamment à un moment donné, où on va découvrir un cadavre dans un mur et on va taper le mur et puis il y a du sang qui va couler. Il y a vraiment un côté de qu'est-ce qu'il y a dans le mur. Donc ça, pour l'époque, c'était assez phénoménal. Et même encore 100 ans après, c'est encore très prenant et très divertissant. Donc voilà. Et ça a eu l'occasion aussi de rappeler que Louis Feuillade est un grand réalisateur français de ces années-là. Et il est célèbre notamment pour ses films à épisodes. Donc là, bien sûr, il y aura 5 films Fantomas entre 1913 et 1915. Après, il fera Les Vampires, qui est sans doute le plus connu. Et ensuite il fera Judex.
Je vous rappelle que Louis Feuillade a pris et est devenu l'un des directeurs principaux, des réalisateurs principaux de la société Gaumont en 1907 sur la suggestion de Léon Gaumont et de Alice Guy, la première réalisatrice de l'histoire du cinéma qui venait de partir aux États-Unis.
Et ben c'est un excellent rappel, effectivement. Serge, Alice Guy, comme ça a propulsé Louis Feuillade sur sa carrière, et ça c'est effectivement à noter. Voilà qui conclut cette émission d'Année Lumière consacrée donc à 1914. Merci d'abord à mon invité Serge Bromberg.
Merci Thibaut, c'est un plaisir.
Beaucoup. Merci également aux partenaires de l'émission, le magazine Cinématiseur et Tsugi Radio. Merci également à vous, chers auditeurs. N'oubliez pas de partager l'épisode, de suivre le compte Twitter d'Année Lumière et de soutenir l'émission, même modestement, via le site ou l'application Utip. En attendant, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission. Salut à tous.